Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille pour revenir sur le Grand Prix d'Espagne 2022 disputé au circuit de Barcelone-Catalunya. Étonnamment une course, un Grand Prix d'Espagne intéressant contrairement à ce qu'on a eu moyennement dans les dernières années. Alors, pour parler de cette course espagnole, j'accueille avec moi Marc-André Fortin tout d'abord. Salut Marc-André.
Salut Abdou.
Comment vas-tu?
Ça va extrêmement bien.
Et je sais pourquoi. je sais pourquoi.
Et c'est pas très facile à deviner, non?
Ouais, exactement. les habitués du podcast savent pourquoi et vous allez et avec le résultat de la course aussi. Et j'accueille pour la toute première fois à la balado diffusion du bulletin GP François Carignan, qui est non seulement un des modérateurs du groupe Facebook La Monoplace, mais aussi le grand maître de la ligue F1 Québec sur PC qui a commencé au cours de l'année 2021. Salut François.
Salut Abdou. Vous allez bien?
Ça va très bien et toi?
Oui, très bien, merci.
Écoute, tout d'abord, bienvenue à la balado diffusion. C'est grandement apprécié que tu te joignes à nous pour revenir sur ce Grand Prix et puis aussi de faire partie de la grande famille du bulletin GP en même temps.
Ben, je te remercie pour l'invitation. Puis en même temps, je crois que je suis le premier qui arrive à Ville d'Orange. Donc, faut un peu présenter nos couleurs.
Oui, exactement. Bon, évidemment, on n'est malheureusement pas en vidéo, mais François porte une casquette McLaren et un hoodie McLaren Golf. Et pour ne pas faire de controverse, la McLaren Golf est overrated.
Bon, OK, next.
on va passer tout de suite au classement du Grand Prix d'Espagne. Alors, on a la raison pour laquelle Marc-André est super content, c'est que Max Verstappen a remporté la course. Et non seulement ça, mais on a un doublé Red Bull, puisque Sergio Perez termine deuxième. Une Mercedes sur le podium, George Russell, Carlos Sainz devant ses partisans, quatrième. Lewis Hamilton est cinquième et il a connu toute une course, et on vous expliquera pourquoi. Valtteri Bottas sur la Alfa Romeo, sixième. Esteban Ocon sur la Alpine, septième. Lando Norris, qui était un peu malade aujourd'hui, huitième. Fernando Alonso sur l'autre Alpine, neuvième. Et Yuki Tsunoda termine dixième et obtient le dernier point disponible. Et le point boni appartient, si je me souviens bien, à Sergio Perez. Corrigez-moi si je me trompe. Ouais.
Exactement.
C'est bel et bien Sergio Perez. Et vous vous demandez pourquoi Charles, on n'a pas nommé le nom de Charles Leclerc. Ben, malheureusement, il a connu un abandon alors qu'il menait la course. On disait qu'il se dirigeait vers possiblement un grand chelem, quoique le grand chelem n'aurait pas été possible avec le meilleur tour de Perez. Donc, c'est un abandon, un premier zéro point pour le Monégasque une semaine avant la malédiction de Monaco. Donc,
on va lui souhaiter que ça s'arrête tout de suite, la mauvaise séquence.
Exactement. Il n'a pas le choix parce qu'il n'est plus premier au championnat. Alors, François, comme tu es l'invité, on va te laisser la parole parce qu'on a toujours nos évaluations post-Grand Prix. Donc, est-ce que tu as une performance, contre-performance et moment cocasse de ce Grand Prix d'Espagne?
D'un point de vue contre-performance, et bonne performance et moins bonne performance, c'est difficile d'ignorer la performance de Lewis Hamilton. Il s'est trouvé essentiellement dernier au premier tour et remonté, aller chercher la cinquième place, tandis que lui-même voulait abandonner après 5-6 tours, si je ne me trompe pas. Essayer d'aller sauver le moteur, lui se disait probablement que ça serait une course espagnole comme les autres où le dépasser serait difficile. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de voiture de sécurité ni rien, lui a réussi à remonter. Les Alpines, les qualifications ont été très, très difficiles, les deux dans les points. C'est quand même intéressant. Contre-performance, je dirais Carlos Sainz. Ben, c'est sûr que là, on a appris que c'était un coup de vent qu'il avait envoyé dans le gravier. Mais quand on n'est pas au courant et qu'on voit ce qui se passe, on se dit, mais vraiment, il n'est pas capable de la garder. Il n'est pas capable de garder un week-end complet, là, constant et efficace, si on veut. C'est comme à Imola, ça allait super bien jusqu'à la course, tu sais. Il y a toujours un petit quelque chose qui se passe dans son week-end qui ruine le tout. C'est vraiment dommage pour lui. Puis sinon, là, du côté des bonnes performances, Valtteri Bottas, là, tranquillement et silencieusement, là, fait son petit bout de chemin. Là. C'est vraiment intéressant de voir ce qu'il peut ramener là, à Alfa Romeo.
Oui, puis Bottas qui était quatrième à un moment donné. Bon, peut-être pas espérer un podium seulement s'il y avait un problème avec le top 3, mais prouve que l'Alfa Romeo, même avec une voiture complètement modifiée, a été capable de rester dans le top 6, si on peut dire, tout au long de l'épreuve. Dommage, par contre, pour son coéquipier, Zhou Guanyu, qui a été forcé d'abandonner à la suite d'un autre problème mécanique. D'ailleurs, petite parenthèse, on parlait justement cette semaine d'Alfa Romeo dans notre podcast de la semaine, donc vous pouvez réécouter ça sur vos plateformes de podcast préférées. Sinon, est-ce que tu as un moment cocasse, François?
Je ne sais pas si Chamel, ça de cocasse, mais un moment qui m'a fait rire, ben, pas vraiment rire, mais tu sais, qui m'a peut-être frappé, disons, plus. Est-ce que ça irait pour toi?
Ouais, oui.
Ok. C'est vraiment à quel point le DRS qu'on est tous prêts à éliminer parce qu'on dit les voitures sont capables de bien suivre, etc.
On voit.
On l'enlève, ça fait rendu techniquement impossible. Malgré le fait que la Red Bull soit une seconde plus rapide autour que la Mercedes, il n'y a rien qui se passait.
Jamais le Max Verstappen n'aurait pu
taper George Russell. Malgré le fait que la voiture était nettement meilleure.
Oui, il y a... c'est fou à quel point le DRS effectivement fait une différence dans une course en Formule 1. Bon, ça c'est juste mon ordi qui me dit qu'il y avait mes problèmes de sécurité étaient réglés. Bref, mais Verstappen, lui, ses problèmes de DRS ont été réglés au final malgré. Mais finalement, je crois que c'est quoi? Il appuyait. Pas correctement sur le bouton de DRS.
Parce qu'il devait appuyer plusieurs fois de suite pour que le DRS ouvre.
OK.
Il disait qu'à un moment donné, il a payé 50 fois pour que ça ouvre.
Aïe, aïe. Et ça fait toute une différence dans une course parce que, d'après moi, je crois que même si George Russell s'est très bien défendu, Verstappen l'aurait dépassé sans ce problème. Donc, effectivement, c'est un bon point que tu amènes.
Et puis, ce que ça a fait, en fait, le fait qu'il devait appuyer plusieurs fois sur le bouton, des fois, ce qu'il se produisait, c'est que l'aileron ouvrait pendant 1 ou 2 secondes, puis après ça, ça refermait. Puis là, il continuait d'essayer pendant la ligne droite des puits, puis elle s'ouvrait comme à 300 mètres avant le point de freinage. Ça devenait un petit peu quasiment dangereux, le fait que, bon, je comprends que dès que la voiture touche au frein, le DRS va se fermer, mais ça devient un peu dangereux de mal gauger la vitesse d'arrivée puis de manquer son point de freinage si jamais le DRS s'ouvre et se ferme n'importe quand dans une ligne droite. Je comprends que c'est des professionnels, puis surtout un pilote comme Max Verstappen est capable de s'ajuster sans trop de problèmes, mais imagine que ça a été une zone de DRS avec une légère courbe, ce que ça ferait. La voiture qui carrément là, perdrait d'effet de sol puis pourrait possiblement là, partir en dérapage.
Oui, en effet, ça aurait pu être pour Verstappen, surtout à un moment où Charles Leclerc a abandonné. Marc-André, quelles sont tes évaluations post-Grand Prix?
J'ai bien aimé Hamilton, pour être franc. J'ai été un peu surpris par sa remontée. Là, à un moment donné, je n'y croyais tout simplement plus. Donc, je pense que ça va lui faire extrêmement plaisir et ça va faire du bien à sa confiance d'avoir pu avoir une performance de la sorte. Parce que bon, c'est un 10 points amassé ici pour Mercedes. Et puis on connaît à partir d'aujourd'hui, et on parlait de la malédiction de Leclerc, est-ce qu'on pourrait penser que c'est un revirement de situation à la 2018-2019? J'espère que non. Mais on voit que la Mercedes est déjà plus solide. Les améliorations semblent avoir fait du bien sur un circuit en Espagne où habituellement on peut voir les différences. Mais évidemment, je crois vraiment, et là désolé, j'ai été déconcentré parce que le CF Montréal vient de tout simplement de se faire marquer par le US Athletic. Donc c'est un. Désolé pour la référence soccer. Mais non, écoute, c'est une bonne course en général. J'aimerais le donner à la course au Grand Prix d'Espagne également parce que j'ai été diverti aujourd'hui. Écoute, les pilotes qui s'en vont dans le gravier, qui réussissent à s'en sortir avec... bon, je pense à Carlos Sainz, je pense à Verstappen. Et puis, je crois vraiment que je peux même ajouter Perez dans tout ça avec le grand coup de main qu'il a donné. On va en parler un petit peu plus tard. Mais en général, ça a été une bonne course.
Ouais, je suis d'accord. Grand Prix d'Espagne en piste qui a été très, 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 très bien. Comme je disais, c'est rare d'avoir un Grand Prix d'Espagne aussi excitant. La dernière fois que je me souviens, c'était 2016 déjà avec les Mercedes qui se sont yittés entre eux dès le premier tour. Puis évidemment, la toute première victoire de Max Verstappen dans sa première course chez Red Bull. 2017, c'était pas mal aussi avec une bataille à trois entre Vettel, Bottas et Hamilton. Mais sinon, le reste, c'était plus des courses processionnelles. 2021, c'était pas mal non plus, mais c'était pas... C'était juste Hamilton qui a fait le show, sinon c'était correct. Mais j'ai lu par contre il y a eu des problèmes de trafic dans le circuit de Barcelone avec 120 000 personnes qui ont essayé de rentrer dans l'enceinte du circuit. Ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux. Donc, ça aussi, ça a terni un petit peu ce Grand Prix. Mais sinon, le reste, ça s'est très bien passé. As-tu une contre-performance?
Carlos Sainz, malgré tout, il a terminé quatrième. Donc, ça a été un résultat qui a un peu sauvé la face de Ferrari cette année. J'allais dire en fin de semaine, effectivement en fin de semaine. Mais tout de même, je crois vraiment que ça reste... Il est déconcentré, il manque de confiance. Oui, c'est un coup de vent. Verstappen aurait pu très bien se retrouver dans cette catégorie s'il n'avait pas réussi à remonter. Écoute, j'ai hâte de voir comment le Grand Prix à Monaco va aller pour lui. C'est un Grand Prix qui est difficile habituellement quand tu manques de confiance. Donc, ça pourrait mal virer pour Carlos Sainz. Ça pourrait encore, effectivement, ne pas très aider sa capacité mentale à avoir de la confiance présentement.
Et ça a un impact sur le championnat des constructeurs parce que Red Bull mène le championnat des constructeurs avec ce doublé combiné à l'abandon de Leclerc. Donc, à un moment donné, il faut que Sainz fasse beaucoup mieux. Oui, j'excuse Imola et Imola pour cette sortie avec Daniel Ricciardo et puis la sortie qu'il a eue au virage 4 aujourd'hui à Barcelone. Mais il va falloir que Sainz, dès les prochaines courses, fasse beaucoup mieux parce que si Ferrari veut remporter un premier championnat des constructeurs depuis 2008. Il va falloir que les deux pilotes fassent beaucoup mieux. Il faut que Sainz, qui est non officiellement aux deux chez Ferrari, je dis non officiellement parce que évidemment Mattia Binotto ne dira pas que Sainz est le numéro 2, mais il va falloir que Sainz soit là pour épauler Leclerc quand ce dernier a des problèmes, comme ce fut le cas aujourd'hui. As-tu une contre-performance? As-tu un moment cocasse, Marc-André?
J'en ai pas relevé, Honnêtement, ça a été un Grand Prix assez plate. J'ai pas réussi habituellement, mais mes moments cocasses se retrouvent sur Twitter. Et là, je travaillais, donc je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Mais ben oui, OK, le moment cocasse, la petite réponse de Checo à la fin, c'était quand même intéressant. Tu sais, OK, mais c'est un peu injuste, mais OK.
Ouais, et ça va faire partie justement d'un de nos sujets. Concernant les consignes d'équipe, moi, ma performance, ben évidemment, je vais le donner au pilote Mercedes, non seulement Lewis Hamilton, qui a fait un très bon retour, une remontada, George Russell qui a fait une très bonne course, s'est bien défendu contre Verstappen et Sergio Perez, a été dans son élément. Mention honorable à Bottas, mais aussi à Fernando Alonso et Yuki Tsunoda aussi, qui s'est qualifié devant Pierre Gasly, même si ce dernier a eu des ennuis et une course très difficile, s'est pris une pénalité de 5 secondes à l'endroit de Lance Stroll pour un contact avec Lance Stroll. Mais Tsunoda a été, pour une des rares fois depuis sa carrière, il a été devant, proprement dit, son coéquipier. Puis ça se voit. On parle moins d'AlphaTauri parce que l'équipe connaît un début de saison assez difficile. Mais Tsunoda, cette fin de semaine, a fait le travail quand même. Donc là, il va chercher quand même un point. Oui, c'est une dixième place, c'est un point, mais c'est un point qui peut donner de la confiance à l'écurie. Donc, ça, c'est sur mes mentions honorables. Contre-performance, évidemment, Carlos Sainz, comme vous l'avez dit, mais je vais donner ça au pilote Haas, parce que Kevin Magnussen, oui, c'est un incident de course, mais je l'ai trouvé un peu agressif. Certes, c'était le premier tour, mais je crois que c'était un petit peu osé par l'extérieur, quoique c'est faisable, mais ça a ruiné sa course complètement. Et Mick Schumacher, qui, malgré un très bon départ, s'est retrouvé sixième après le premier tour, a juste dégringolé. Je crois que c'était pas... Et pourtant, il y avait un potentiel de points pour Haas, mais Magnussen, ça a été ruiné avec le contact et Schumacher a juste manqué de rythme en fin de course avec les autres pilotes qui se sont arrêtés pour un troisième. Donc, ça, ce sont mes contre-performances. Et un moment cocasse, c'est le Drake Curse qui a atteint la Formule 1.
Oh, oui, c'est vrai.
Parce que Drake, qui est, je sais pas s'il est encore présent, mais il est à Montréal pour le festival de rap Métro Métro. Il était là samedi. Il a décidé de parier, je crois c'est quoi, 250, 300 000 $? 300 000 $ sur
$3 pour lui.
Ouais. Mais il a perdu il les a perdus parce que Charles Leclerc a abandonné. Donc, c'est un gros yikes pour notre cher Drake qui a perdu 300 000 $ en pariant sur la victoire du pilote Ferrari.
Pendant que moi, j'ai fait 8,75 $ en pariant sur Max Verstappen. Donc, c'est qui le plus brillant des deux?
Et on va tout de suite se lancer sur nos premiers sujets. On va parler évidemment de Max Verstappen qui a remporté la course et ce malgré, comme on l'a dit, les problèmes de DRS. Mais je veux aussi parler de sa sortie de piste au virage 4 quelques tours après Carlos Sainz. Au final, Tsunoda n'a pas importuné Verstappen parce qu'il avait beaucoup de rythme. Évidemment, cette histoire de DRS l'a dérangé pas mal, même s'il dit « nobody effing cares » à la radio, mais ça l'a quand même dérangé pendant sa bataille contre George Russell. Mais là, au moins, avec l'abandon de Charles Leclerc et sa victoire, ben Verstappen retourne à domicile, entre guillemets, avec la tête du championnat. Donc, François, ça, c'est un gros boost pour Verstappen dans, pour la suite du championnat.
Oui, bien, c'est sûr que de façon générale, c'est un gros boost pour Red Bull. Les doublés Red Bull se font très, très rares. Bon, évidemment, c'est avec Ferrari qui est aussi compétitif. C'est sûr que ça va être une occurrence là, peu fréquente au cours de cette saison. Mercedes là, qui semble se pointer au bout du nez pour ramasser les miettes si jamais les deux écuries là, font des erreurs ou encore ont des problèmes techniques comme on a vu aujourd'hui. Donc, il faut quand même là, faut considérer que cette course-là peut être probablement un point tournant pour toute la saison. Carlos Sainz là, qui va seulement chercher 12 points pour Ferrari, tandis qu'il y en a, si je ne me trompe pas, c'est 44. Ouais, 44 parce que Perez a le tour le plus rapide. 44-12. Tu dis qu'à la fin, là, ça peut-être jouer, disons, là, dans les 30-40 points. Si jamais Sainz peut retrouver son rythme, là, ça va être une course pivot, ça, j'en suis convaincu. Puis en même temps, le momentum va être énorme là, dans le garage Red Bull pour pouvoir rebâtir là-dessus. Puis ça continue la séquence, évidemment, quand Max termine une course, il la gagne. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui démontre la dominance de ce pilote-là. Puis je pense qu'on lui donnera jamais assez crédit parce qu'il course en même temps que d'autres excellents pilotes comme Lewis Hamilton, Charles Leclerc, etc. Mais je pense qu'il montre aujourd'hui que c'est plus que juste la voiture comparé à ce que certains peuvent croire parce que justement, il y avait des problèmes avec sa voiture puis il l'a quand même ramené en avant. Donc, il y a un talent énorme puis il faut l'apprécier. Là, ça passe pas... C'est pas tous les pilotes qui vont arriver en F1 qui vont avoir ce genre d'impact-là.
Effectivement. Et puis, c'est comme ça qu'on reconnaît les champions. C'est ceux qui sont capables de pousser à fond dans l'adversité, même quand ça va mal. Et Verstappen, justement, a été capable de faire ça malgré ses problèmes de DRS et sa sortie de piste aussi. Alors, Et Verstappen n'a pas fait d'erreur le dimanche, à moins que je me trompe, mais je pense pas qu'il ait fait d'erreur. Donc, à part
le coup de vent,
oui. Donc, je pense pas que ce soit une erreur en soi aussi, là, mais à part ça, Verstappen a été sans faute dans les courses qu'il a. Même les abandons aussi, il a été capable de rester proche de Charles Leclerc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, Espagne est en train de devenir un point tournant dans cette saison, surtout où Verstappen va arriver non seulement comme meneur au championnat, mais aussi comme vainqueur en titre du Grand Prix de Monaco. Et sur une course qu'il commence à très bien maîtriser aussi. Alors, ça va être très intéressant de voir comment... je ne serais pas surpris de voir Verstappen continuer de la sorte, évidemment en espérant que la fiabilité tienne le coup. Et Marc-André, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Verstappen aujourd'hui en Espagne?
C'est une très, très belle victoire dans les circonstances. Plusieurs vont remettre en question cette victoire en raison du laisser-passer de Perez, mais malgré tout, on va en reparler, là, donc je vais être très court sur ça. Mais exactement, je pense qu'on voit à quel point il est dominant. Il y avait des problèmes. Il y a eu cette petite erreur aussi en raison du vent. Il aurait pu être pris dans le gravier. Finalement, il est ressorti. Problème de DRS. Et finalement, une victoire qui lui donne la tête du championnat alors que plusieurs n'y croyaient tout simplement plus. Il a amassé, tantôt, François parlait des miettes pour Mercedes, mais au cours des dernière course, lui aussi a amassé des miettes lorsque ça allait moins bien. Et il a réussi à gagner des courses importantes. Alors, qu'est-ce que ça fait en ce moment? Il a deux abandons, Leclerc en a un, et il est quand même en tête du championnat. Et ça, ce n'est pas rien.
Et voilà, donc ça c'est très important et surtout on disait que les abandons pouvaient coûter cher à Verstappen. Au final, c'est comme si bon, c'est quand même une avance un peu minime, mais c'est comme si les deux abandons ne paraissaient plus comme être un fardeau dans la course au titre pour Max Verstappen jusqu'à présent. Là. Donc, c'est une belle remontée, si on peut dire, de la part du pilote néerlandais. Et je veux passer tout de suite au plus gros des sujets, si on peut dire. Ce sont les fameuses consignes d'équipe parce que, évidemment, on a tous entendu l'ingénieur de piste de Sergio Perez dire aux Mexicains de laisser passer Max et Perez de dire ben, c'est injuste mais ok, puis ensuite dire ben, en fin de course ben on va, j'aimerais qu'on en parle de tout cela. Moi je me souviens lors du tout premier épisode officiel de la balado du bulletin GP, j'étais complètement pour les consignes d'équipe. Certes, ça paraît être plus assez tôt parce que c'est la sixième course de la saison, mais les consignes d'équipe, ça fait partie du sport, même si peut-être pour l'orgueil des pilotes, mais aussi pour les fans qui veulent voir des batailles en piste, ça reste quand même quelque chose de nécessaire parce que c'est la Formule 1, bien qu'il y ait un championnat des pilotes, il y a aussi un championnat des constructeurs. Donc, autant Red Bull veut privilégier les deux et Max Verstappen est le champion en titre. Donc, dans la circonstance, tu peux pas laisser Verstappen dans une situation où il ne semble pas avantagé. Aller chercher la victoire, ça aurait été mieux. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé tout d'abord de la décision de Red Bull d'exécuter ces consignes d'équipe, François?
Ben, écoute, souvent, quand on pense aux consignes d'équipe, on va penser à ce que celui qui en a été la plus grande victime des dernières années, c'est Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, par contre, lui, quand c'est arrivé chez Mercedes, s'était fait laisser croire, si on veut, qu'il y aurait une chance de se battre. Mais par contre, on voyait dès que Lewis avait 10, 15, 20 points d'avance au championnat, ça devenait tout de suite un cas de pilote 1, pilote 2, sans que ce soit dit ou encore écrit. Ça devenait une situation très, très claire, là, comme quoi si jamais les deux étaient à proximité, si jamais ça avantageait moindrement Lewis, c'est lui qui allait passer devant. La différence que je vois entre Valtteri Bottas et Sergio Perez, c'est Sergio Perez est rentré chez Red Bull avec, évidemment, pas de façon écrite, mais de façon très, très claire et entendue, comme quoi il était là pour aider Max. Il n'est pas là pour gagner les courses lui-même. Ça, je pense que ça a été très clair. Mais bon, c'est sûr que d'un point de vue compétitif, c'est un peu dommage. Tous les pilotes de F1 courent pour gagner. Donc, quand on se fait dire, ben écoute, t'es plus rapide, mais tu vas devoir quand même sacrifier ta course pour l'autre qui est en avant de toi au classement, puis il n'était pas en avant par Sergio Perez, avec une victoire puis un abandon de Max, le rattrape au classement. T'sais, on s'entend. Il n'est pas loin derrière. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage pour lui, mais en même temps, Sergio démontre une énorme maturité. Il n'est pas du genre à s'en plaindre sur la radio. Tu sais, il va dire, on en parle plus tard. Je ne trouve pas ça fair, mais bon, OK. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que Red Bull doit énormément apprécier, puis peut-être même ne remarque pas assez à quel point c'est une belle qualité que Sergio a. Il dit tout le temps... Il agit tout le temps en fonction de l'équipe comparé à certaines fois qu'on a vu dans le passé des pilotes peut-être quand se retrouvaient dans cette situation-là, se battaient un petit peu, puis ça créait des problèmes, puis des tensions à l'intérieur de l'équipe. Je pense que Max Verstappen, si jamais remporte encore le championnat cette année, va probablement payer un beau cadeau à Sergio encore une fois. Tu sais, il va s'arranger pour le récompenser. Donc, il sait très, très bien la contribution que son coéquipier a. Je dis pas que sans Sergio, il serait pas capable de gagner de course, c'est pas ce que je dis, mais ça nuit absolument pas. Et puis, bon, évidemment, on l'a vu aussi là, à quel point il est excellent pour jouer le coéquipier l'an dernier à plusieurs reprises. Abu Dhabi a été le meilleur exemple. Évidemment, lui, il savait que sa course valait absolument rien. Ça, c'était très clair. Mais l'exécution dans laquelle il a aidé Max, on l'a vu aussi en France, à quel point il était content, il était fier d'aider Max, ça, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. On l'a toujours senti là chez Bottas qu'il faisait plus par obligation que par plaisir. Cela dit, est-ce que c'est intéressant à regarder pour un spectateur? Non. Je comprends. Moi-même, je l'ai dit, là, Abdou, dans le chat, j'ai dit Perez devrait gagner cette course. Mais bon, du moment que les deux sont en dedans de 5 secondes et qu'il y a, il y a un switch qui est possible, ils vont le faire. Ça, je pense que c'est très clair chez Red Bull.
Ouais, puis je pense aussi que bon, les deux étaient sur deux stratégies différentes. Verstappen rattrapait Perez de toute façon, donc que Perez tente de retenir son coéquipier, ça n'aurait pas été logique de toute façon. Ça aurait été même une nuisance, si je peux dire, même si Russell n'était pas dans le cool. Donc c'était la chose à faire. Marc-André?
C'était, bon, je vais le répéter, c'était la chose à faire parce que, écoute, dans les circonstances, Perez devait s'arrêter de toute façon. Max avait des difficultés avec son DRS, ce n'était pas le moment non plus de se battre entre coéquipiers pour pas que le DRS lâche et que si jamais Russell embarquait et réussisse à créer un certain écart intéressant entre les deux, qu'ils soient capables de le battre en vitesse pure et tout simplement. Donc, c'était la chose à faire. Je ne suis pas un partisan des consignes d'équipe, mais quand c'est aussi logique que ça, ben ça me va. Parce que oui, Perez est très près au classement, mais ça reste que, en fin de compte, Verstappen l'aurait sûrement dépassé et serait passé en premier. Donc, pourquoi tenter de perdre les deux premières positions tout simplement pour quelques points de plus. Donc non, je pense que vraiment Perez en ce moment est un très, très bon coéquipier. On s'attendait à ça quand il est arrivé aussi, même si je pensais qu'il allait avoir, disons, un peu de sang rouge entre ces deux-là. Je suis quand même agréablement surpris de la cohésion qu'ils ont et du résultat que ça donne aujourd'hui. Je pense qu'on voit à quel point c'est payant, là.
Et si je peux ajouter aussi, François parlait de Perez qui a été d'une utilité incroyable à quelques occasions. L'année dernière, par exemple, Abu Dhabi, naturellement, France aussi. Évidemment, et François parlait avec raison de la maturité. Et tu touches un très bon point, François, parce que je me souviens encore, je pense que j'avais déjà mentionné dans un des épisodes, d'un Sergio Perez qui avait carrément, à Montréal en 2017, refusé de laisser passer Esteban Ocon, alors que ce dernier était littéralement plus rapide que lui pour aller chercher Daniel Ricciardo et un podium possible pour feu Force India. Et ce que ça a causé, ben, c'est Sébastien Vettel qui était en feu après un arrêt au puits, ben, après une perte d'un bout de son aileron avant, qui est revenu et qui a fini quatrième en dépassant les deux voitures roses. Et ça a été le début, et en plus d'une tentative de dépassement ratée de Ocon sur Perez sur la droite du casino, et ça a été le début d'une tension difficile chez Force India. Et exemple en cause, Belgique, où les deux s'accrochent. Donc, le Perez de 2017 et le Perez de 2021-2022 avec Red Bull est totalement différent. Donc, Perez est capable de jouer le jeu de jouer le jeu d'équipe, même si ça ne lui plaît pas. Et c'est ça aussi en Formule 1. C'est que tu dois être un peu moins orgueilleux, même si tu sais que tu as une chance de victoire, mais tu le fais aussi pour le bien de l'équipe, parce que oui, évidemment, ils vont payer ton salaire, mais aussi c'est parce qu'ils te donnent les meilleurs outils possibles pour gagner une course dans que ce soit la prochaine épreuve ou dans deux ou trois épreuves. Donc, c'est sûr que pour Checo, surtout que là, il semble beaucoup mieux à l'aise avec la voiture, le châssis 2022 que celui 2021, naturellement. Ça lui donne... Il est beaucoup plus à l'aise. Il sait qu'il peut gagner des courses. Alors, il essaie de faire de son mieux. C'est sûr que ça lui fait mal. Mais au moins, ce que je peux dire, c'est pas comme Autriche 2002 ou bien 2001 avec Schumacher et Barrichello, là, où il y avait déjà, je pense que c'était à peu près la même nombre de courses durant la saison. Schumacher était en avant confortablement, puis Barrichello menait, puis Jean-Todd avait dit « Laisse passer Michael pour le championnat ». Puis ça a vraiment fait suer les fans. Donc, évidemment, on est dans des époques différentes, mais les consignes d'équipe, c'est quelque chose qui se doivent de rester, même si la Formule 1 a déjà tenté, a déjà banni tout cela.
Si je peux m'ajouter aussi, si jamais une consigne d'équipe comme ça a été le cas aujourd'hui fait en sorte qu'au lieu de terminer deuxième, Perez termine sixième, par exemple, là, ça devient plus un problème. Mais quand c'est une question de 1-2, 1-2, 1-2 ou 1-3, 2-3, ou que c'est pour aller chercher des gros points, je pense que là, à ce moment-là, c'est plus justifiable. Tandis que là, si jamais il y en a un qui sacrifie carrément sa course puis perd 4, 5, 6, 7 places pour que l'autre en gagne une, ben là, à ce moment-là, ça devient un plus gros problème puis ça nuit encore plus à l'intégrité du sport puis au spectacle. C'est pas le cas, ce qu'on voit aujourd'hui. Pour moi, c'est évidemment, comme je disais, c'est pas idéal, c'est un peu dommage, mais c'est pas dramatique à un certain point.
Donc, on va passer au prochain sujet. Je voudrais savoir, vous, les auditeurs, est-ce que vous pensez que les consignes d'équipe chez Red Bull lors du Grand Prix d'Espagne étaient justifiées ou non? Laissez-le nous savoir sur nos pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On va parler de Charles Leclerc, qui a connu une journée difficile. On a parlé un peu de Carlos Sainz. Donc, Sainz was in Spain without the A. Verstappen was in Spain. And Charles Leclerc was in Spain without the S. Bref, ça a été très difficile. Désolé, il fallait que je la fasse. Il fallait que je la fasse. Donc, oui, c'est heureuse pour Charles Leclerc qui non seulement perd une belle victoire, mais aussi la tête du championnat. Et avec le Grand Prix de Monaco qui arrive, c'est disons une pression de plus, Marc-André.
OK, oui, c'est une pression de plus. Alors que Ferrari semblait, se trimballer sur un bateau, sur de l'eau, assez calme. Ils se sont fait frapper par les orages que nous avons eus dans les derniers jours. C'est assez difficile d'accepter une journée comme celle-ci parce que Leclerc semblait bien en vie sur ce circuit. Il avait réussi à avoir la pole. Maintenant, est-ce que c'est en raison du problème du DRS également de Verstappen qui est à noter lors des qualifications? Peut-être. Il n'a pas pu terminer son dernier tour. Alors qu'il y en avait eu un quand même assez bon, mais ça, la vie n'a pas voulu nous le montrer. Donc, tout ça pour dire que je crois réellement que Ferrari va s'en vouloir aujourd'hui. Bon, la fiabilité, c'est une chose qu'on ne contrôle pas. C'est une chose qu'on encaisse. Je pense que Red Bull l'a très bien compris en début d'année. Ils ont réussi à, du moins, en apparence, réussir à modifier un peu leur voiture pour que ça n'arrive plus. Maintenant, ce petit problème de DRS devra être réglé aussi chez Red Bull. Mais non, la pression est sur Ferrari, vraiment. Parce que tu ne peux pas commencer l'année aussi fort et descendre comme ça. Il n'y a pas de conséquences parce que honnêtement, Carlos Sainz a beaucoup de misère en ce moment. Et J'espère juste qu'on ne revira, qu'on ne va pas vivre un autre 2018-2019 chez Ferrari, parce que ce serait vraiment, vraiment horrible pour eux là, et pour les tifosi.
Et surtout avec la voiture qu'elle a, parce qu'elle est définitive. La F175 est définitivement meilleure que les châssis 2017, 2018 et même 2019, et de loin. Alors, il y a un réel potentiel d'aller chercher le championnat. Là, ce n'est plus Mercedes. Là, c'est Red Bull qui a une voiture similairement bonne. Alors, c'est abordant de Leclerc sur un problème de moteur, en fait, ça fait mal. François, est-ce que... Oh, tu voulais rajouter quelque chose, Marc-André?
Oui, bien, tout simplement pour ajouter que quand je regarde tout ça, on dirait que Red Bull joue les troubles fêtes dans une compétition comme celle-ci en ce moment. Et j'espère pour Charles qu'il n'aura pas trop de problèmes, parce que là, on s'entend, comme j'ai dit tantôt, c'est 2-1 chez les abandons. Il ne faudrait vraiment pas qu'il y en ait d'autres chez Charles Leclerc.
Oui, effectivement. Et puis, François, il faut se dire de Leclerc. Avant son abandon, Leclerc était en mode cruise control.
Exactement les mots que j'allais utiliser. Il était sur le cruise control, je pense qu'il était quoi, 13 secondes devant Russell? Là, 10 et 15 secondes là, de mémoire. Il prenait presque une seconde autour sur Russell et Max, parce que les deux... Bon, Russell perdait du temps à se défendre, et puis Max, lui, perdait du temps parce que son DRS fonctionnait pas et qu'il était pas capable de suivre et de rattraper, en fait, là, George. Vraiment, là, c'est là qu'on se dit, c'est vraiment un coup de malchance, parce que sinon, comme tu disais plutôt, là, c'était parti pour un week-end parfait, on peut presque assumer que ça l'aurait été. Il est en train de se développer une belle avance qui aurait permis presque d'avoir un arrêt au plus rapide si jamais vous voulez chercher le tour le plus rapide à la fin. Là. C'était à ce point-là, la domination de Ferrari était à ce point-là. Ben, pas de Ferrari, mais de Leclerc. Puis Sainz aussi, là, du moment que il s'est remis un peu dans son ordre stratégique, ça a bien été. Je pense qu'à un certain moment donné, il était hors des points. Évidemment, c'était en plein cœur d'une séquence zéro pluie. Mais tu sais, c'est quand même bien ébrouillé là, avec tout le trafic autour de lui. Puis bon, il y avait peut-être la cinquième place là, si Hamilton ne devait pas carrément le laisser aller en raison de la surchauffe qu'il avait en fin de course. Mais bon, quand même un top 5 là, dans le contexte qu'on a connu. Là, je pense que quand c'est sorti du bac à gravier, il était quoi, 12-13? C'est quand même pas si pire.
Oui, effectivement. Ça peut jouer, en fait, pour la suite du championnat. Advenant, par exemple, une malchance de Red Bull. Et s'il y a une équipe qui a profité de l'abandon de Charles Leclerc, c'est Mercedes, parce que George Russell s'est retrouvé meneur du Grand Prix d'Espagne, et c'était la deuxième fois dans sa carrière qu'il était devant, évidemment, avec cet épisode de Sakhir 2020 que peut-être plusieurs veulent oublier. Oui, François qui fait le signe de la croix. Oui, effectivement, je crois que ce Grand Prix est mort dans l'esprit de George Russell. Mais il s'est quand même bien débrouillé. Ben, les deux pilotes Mercedes se sont bien débrouillés, pas seulement durant le week-end, mais toute la fin de semaine. Évidemment, Russell monte sur le podium. Mais j'ai envie de poser la question, parce que Lewis Hamilton a eu un contact avec Kevin Magnussen. C'était un incident de course, évidemment. Donc ça, je pense que c'est quand même fait dans la décision. Mais Hamilton était le seul pilote à partir en gomme médium, alors que tout le monde était en tendre. Donc, on se dirigeait peut-être vers une course à deux arrêts de son côté. Oh, bon, je crois qu'on a perdu Marc-André, malheureusement, mais il va revenir. Je crois que Hamilton n'eût été du contact avec Magnussen au départ. Je crois qu'il aurait été un trouble fait pour un podium, voire même pour la victoire.
Ben, écoute, si jamais on considère qu'il était 19e, il était dernier ou avant-dernier, là, je me rappelle pas, je pense qu'il était, Oui, il était 19e parce que Magnussen a resté perdu presque 25 secondes dans le bac à gravier. Là. Quand même, d'ailleurs, assez exceptionnel qu'il ne soit pas resté coincé, là, petit nom. Mais le fait qu'il sans voiture de sécurité, il ait réussi à rattraper un retard de quoi? 40 secondes à peu près sur les sur la tête. Ça donne une idée si jamais il n'y avait pas eu ce problème-là. Qui, selon moi, est un pur incident de course. Comme tu l'as dit, là, écoute, quand on est au premier tour, tu as deux pilotes côte à côte, ça va être très souvent considéré un incident de course parce que tu dois prendre ta place. Parce que sinon, ça impacte le reste de la course. Pour moi, je pense que Lewis a démontré qu'il était peut-être un candidat au podium. Là, je sais pas jamais, c'est à la place de Russell. Mais en tout cas, définitivement, là, le top 4 était encore plus à sa portée là, qu'il ne l'a finalement été.
Oui, effectivement. Et puis, j'aurais vraiment voir Hamilton avec la stratégie de pneu médium parce que comme il était le seul avec cette gomme au départ, ça aurait été tellement intéressant de voir comment les autres allaient réagir en fonction de la de Hamilton, étant donné que la médium allait durer un peu plus long, dure normalement un peu plus longtemps, donc il va rester en plus longtemps. Et lorsqu'il va passer au temps, il va pouvoir pousser un peu plus. J'ai vraiment aimé voir ça. Ça nous a, parce que ça aurait été une course stratégique. Dans la course, on aurait eu Red Bull contre Mercedes, comme on l'a vu l'année dernière. Ça aurait été magnifique, moins toxique, heureusement. Mais c'est dommage, mais ce sont des trucs qui arrivent. Mais quand même, c'est assez impressionnant aussi que Hamilton, et je dois lever mon chapeau à Peter Bunnington qui lui a dit à Lewis, non, on a une chance de finir au moins 8e lorsqu'Hamilton voulait faire son il voulait en général se retirer pour économiser le moteur. Oui, je comprends dans le contexte, il veut faire ça parce que la saison est longue, mais quand tu as une chance d'aller marquer des points, il faut sauter sur l'occasion.
Mais écoute, ça a été beaucoup mieux que 8e finalement. Ça prenait carrément juste. Il a été opportuniste, il faut le donner. Puis comme je disais, le fait que ça a été même pas grâce à une voiture de sécurité démontre encore plus de choses intéressantes de la part de Mercedes. Est-ce que ça me fait croire qu'ils sont de retour dans la lutte aux constructeurs? Absolument pas. Tu vois que la voiture est vraiment là, comme une classe 2A, si on veut, là, sachant que Red Bull et Ferrari sont comme la classe 1. Mercedes est vraiment là comme dans une catégorie à part, mais en tête de cette catégorie-là, je dirais.
Ouais, je dirais un B aussi. Hein? Un B aussi. Ouais. Tout dépendamment
Vraiment, là, un bon écart. Quand même.
Exactement. Donc, au moins, c'est une bonne nouvelle qui est troisième avec 120 points au championnat des constructeurs. Donc, assez intéressant. Il faut qu'on parle de. Alonso a quand même fait une très bonne course. Il s'est qualifié 17e et est parti dernier parce que je crois qu'il y a eu des changements au niveau de ça. Je pense que c'est sa boîte de vitesse ou de son moteur, si je me souviens bien. Donc, il est parti 20e, a connu un très bon départ, a gagné 5 places et s'est retrouvé en belle lutte. Pour finir 9e avec 2 points, évidemment, ça ajouté au fait que Esteban Ocon aussi avait du rythme. Donc, je pense qu'il a fini quoi 7e. Voilà, donc il a fini 7e Ocon. Donc, pour Alonso et pour Alpine, c'est finalement la qualification, les qualifications désastreuses des deux pilotes. On va pouvoir oublier ça facilement.
Ben, écoute, quand les deux ne se classent pas dans le top 10, puis les deux ramènent des points, c'est mission accomplie, de façon générale. Je pense honnêtement qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à aller chercher. Est-ce que, bon, tu regardes Ocon, ce qu'il y avait devant lui, c'est Hamilton et Bottas. Est-ce que la Alpine est plus rapide que les Alfa Romeo puis Mercedes? Non. Je pense qu'il était à sa place. Puis Alonso était devant lui, c'était Norris. Malgré le fait que, il n'était peut-être pas au sommet de sa forme, la McLaren est quand même une bonne voiture. C'est milieu de peloton, là. Mais Norris est un pilote qui est très, très difficile à dépasser aussi. Ça, c'est quelque chose que Lewis Hamilton pourrait très, très bien... pourrait confirmer après Autriche et Russie l'an dernier. Such a good driver, Lando. Et puis, si jamais c'était pas de la pluie, je pense que Hamilton n'aurait pas gagné cette course. On va pas trop en revenir parce que ça fait encore un petit peu mal. Mais je pense que ça démontre à quel point Lando Norris est un... malgré le fait qu'il était pas au sommet de sa forme, la 8e place, là, c'est très appréciable. Puis d'avoir les deux Alpines autour, comme je disais, partie hors du top 10. Le fait que tu as pu les pneus de qualification qui viennent un petit peu là, tentent de rebalancer la course, ça fait en sorte que c'est très difficile pour ceux qui partent en arrière de remonter avec des stratégies audacieuses. En plus du fait qu'il n'y avait pas de safety car, comme je ramène pour la 3e-4e fois du podcast, les opportunités de se distancer ou encore de prendre un avantage étaient minimes, disons.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis, quand tu parlais de Lando Norris, il faut préciser que quand il n'était littéralement pas au sommet de sa forme parce que il était malade. Je crois qu'il avait quoi? En anglais, ils disent tonsillitis.
Hay fever,
je crois qu'il avait.
La grippe des foins.
Ouais, la grippe des foins, je pense qu'il avait aussi tonsillitis, hay fever, grippe des foins. Rhume des foins.
En forme.
Il n'était pas en forme et il a réussi quand même à finir devant Daniel Ricciardo. Alors, c'est quand même bien. Aston Martin qui a soulevé la controverse, si c'en est une, avec sa Red Bull verte qui finit avec Sébastien Vettel 11e, Lance Stroll 15e. Vettel, course correcte, quand même bien remonté. Lance Stroll, très discret, mais on l'a vu à quelques reprises parce que, premièrement, il a fait un ou deux dépassements, mais aussi avec l'accrochage causé par Pierre Gasly. C'est une course un peu oubliée pour... Aston Martin, même si Vettel finit à la porte des points.
On voit le fait qu'ils ont copié la Red Bull, ne sont définitivement pas aussi rapides. Il reste encore beaucoup de travail pour que deux voitures à des allures similaires soient aussi rapides. Ça, c'est très clair.
Oui. Puis ça prend du temps avant qu'elles soient bien développées. Et ironiquement, la Haas, qui est la seule écurie à ne pas avoir eu de mise à jour sur la voiture cette fin de semaine, a mieux fait, même si Magnussen s'est retrouvé loin derrière et que Mick Schumacher a perdu du rythme. Et aussi, il faut préciser que Nicolas Latifi a fini devant Alex Albon littéralement avec un dépassement. Donc, Latifi qui a été, disons, largué par Albon, mais aussi Nyck de Vries qui faisait sa première apparition dans une Formule 1 en FP1. C'est une bonne fin de course pour le pilote natif de Toronto.
C'était quelque chose de voir les commentaires sur les réseaux sociaux de Williams. Après la FP1, quand tu as un dixième de seconde entre un gars qui n'a jamais conduit la voiture, puis Nyck de Vries et Nicolas Latifi, tu avais, je pense, 103 millièmes, quelque chose comme ça entre les deux. Puis c'est le pilote qui n'a jamais conduit la voiture qui est devant. Les commentaires sur la page Facebook
de Williams et puis sur Twitter. J'aurais pas voulu lire ça être Nicolas Latifi. C'était pas très, très beau.
Ah, moi non plus. Et puis surtout, ben, il faut pas oublier aussi que De Vries est un champion, le champion en titre en Formule E, mais aussi le champion de Formule 2 en 2019, si je me trompe pas. Donc, De Vries n'est pas évidemment plus talentueux que Nicolas Latifi. Ça, c'est quelque chose que je peux dire sans honte quand même. Donc, c'était tout à fait normal, mais Latifi a beaucoup plus d'expérience dans une Formule 1 que De Vries. Mais Dieu merci pour lui, en fait. Il a réussi à dépasser Alex Albon en piste et à rester devant. C'est même permis de dépasser Kevin Magnussen dans les derniers tours. Donc, au moins, il y a de quoi tirer. Il y a au moins quelque chose de positif à tirer de cette fin de semaine difficile pour Nicolas Latifi.
Absolument.
Alors, on va passer tout de suite aux résultats des courses de soutien parce que pour la première fois de la saison, on avait les quatre formule de soutien pour la Formule 1, les trois, pardon, on avait la Formule 2, la Formule 3 et la série W. La prochaine qu'on va avoir, c'est Paul Ricard au mois de juillet. Donc, on va commencer par la Formule 2. Donc, dans la course sprint, Felipe Drugovich a remporté la course devant Ayumu Iwasa, qui est une des recrues du plateau. Logan Sargeant finit troisième. Yohan Daruvala, quatrième. Théo Pourchaire, cinquième. Frédéric Vesti, sixième. Enzo Fittipaldi, septième. Liam Lawson, Jack Doohan, sixième. Frédéric Vesti, septième. Fittipaldi, huitième. Liam Lawson, neuvième. Et Marcus Armstrong complète le top 10. Dans la course feature, Drugovich complète le doublé avec une victoire. Jack Doohan termine deuxième. Et Vesti obtient un podium. Sargeant, quatrième. Clément Novalak, cinquième. Enzo Fittipaldi, sixième. Marcus Armstrong, septième. Théo Pourchaire, huitième. Liam Lawson, neuvième. Et Roy Nissany complète le top 10 dans la course feature. Donc, au classement des pilotes, Drugovich, maintenant, est en tête avec 86 points. C'est 26 de plus que Pourchaire. Et Daruvala complète le top 3 avec 41 points. Et la prochaine course, c'est à Monaco la semaine prochaine. Tandis qu'en Formule 3, en Espagne, toujours à Barcelone, David Vidales sur la Campos remporte la course devant Jack Crawford et Caio Collet. Tiens, c'est pour apaiser la peine de Charles Leclerc. Ben, son frère Arthur Leclerc a terminé quatrième lors de la course sprint. Et ensuite, dans la course feature, Victor Martins a remporté l'épreuve principale. Donc, le pilote ici de l'Académie Alpine a remporté l'épreuve et mène le championnat avec 62 points. C'est 6 de plus que Stanek et 12 de plus que Crawford. La prochaine étape, la prochaine course aura lieu à Silverstone au début du mois de juillet, donc pendant la fête du Canada. Et finalement, en série W, eh bien, nul autre que Jamie Chadwick, la fête qui célébrait son anniversaire cette fin de semaine, a remporté l'épreuve devant Abby Pulling et Alice Powell qui complètent le podium. Et au classement des pilotes, ben, Chadwick a 75 points, donc 3 fois 25. Pulling est deuxième avec 38. Alice Powell, troisième avec 33 points. Batski Vesseux est quatrième avec 31 points. Et Nerea Marti, cinquième avec 27 points. Et comme on a eu un podium entièrement britannique, la prochaine épreuve de la série W est à Silverstone aussi au début du mois de juillet. Donc, il y a peut-être la chance de voir un autre podium complètement britannique à la maison. Les chances sont bonnes. Donc, voilà. Des épreuves de des séries de soutien pour la Formule 1. Alors, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du bulletin GP. On sera présent jeudi pour l'émission quotidienne. Donc, ce sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast et autres. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des critiques, compliments, etc. Ça va nous faire plaisir de les lire aussi. On est disponible sur Facebook et Twitter et Instagram @lebulletingp aussi. Et François, je parlais de la Ligue. Est-ce qu'elle elle devrait revenir en principe?
La Ligue, ben c'est sûr qu'on va refaire une Ligue. Le fait que le jeu F1 2022 soit maintenant crossplay, on ne sait pas comment ça va se présenter ni quand est-ce que ça va être possible de commencer les activités. Mais oui, là, fin d'été ou à l'automne, il va y avoir une nouvelle saison sous un nouveau nom. Évidemment, le F1 Québec n'existant plus. Alors, je vous invite à suivre ça. Là. Abdou est la voix de notre ligue. Donc, c'est notre mascotte, notre voix, notre porte-étendard, notre héros. Alors, tu connais bien la ligue, Abdou. Je pense que tu as hâte aussi, autant que moi, de voir la saison 2.
Oui, j'ai vraiment hâte à la saison 2. C'est, surtout que la première, elle était vraiment, vraiment plaisante. Alors, je me prépare, tout comme j'ai hâte à la fin 2022, évidemment, mais j'ai hâte de revenir à la description des courses de la ligue que tu as créée, François. Donc, j'ai vraiment hâte à la première course de la saison. Et puis aussi, il faut que je précise, vous pouvez, si vous voulez parler de Formule 1 en général, François, moi, Marc-André et tous les modérateurs du groupe La Monoplace est disponible. On est là sur Facebook, vous pouvez taper La Monoplace et ça va être visible très facilement. Donc, venez faire un tour à La Monoplace, c'est toujours un plaisir de vous lire parler de Formule 1. Donc, François, un énorme merci de ta présence.
Ben, je te remercie pour l'invitation, encore une fois, et puis au plaisir de reparler de F1 avec toi.
Et compagnie, ben, la porte est toujours ouverte. Tu es membre du bulletin GP, alors...
Merci
à vous. Problème. Donc, un énorme merci à toi. On remercie Marc-André aussi qui a dû nous quitter un peu d'urgence. Donc, on espère que ça va bien pour lui. Donc, mais il sera de retour la semaine prochaine pour l'épisode. Et nous, on sera de retour pour l'émission d'après-course. Pas ce dimanche ou lundi, mais bien, on va prendre le spot habituel du jeudi pour revenir non seulement sur le Grand Prix de Monaco, mais aussi sur les fameux 500 000 d'Indianapolis qui aura lieu le dimanche 29 mai. Donc, c'est un rendez-vous, donc un épisode spécial après-course F1 et IndyCar. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Je vous souhaite un bon début de semaine, peu importe où vous êtes, ou une bonne semaine, entre autres. Et prenez soin de vous. Salut tout le monde!